RMC Intégral Tour.
Cette grande hutte est la demeure du chef incontesté du village, le redoutable
Christophe Cessieux.
Mais Mimine, c'est moi qui dois être sur ce bouclier. Je suis le chef après tout.
Redoutable, pas si redoutable que ça. Bonjour à tous, c'est l'Intégral Tour. Ravi de vous retrouver, évidemment, comme tous les après-midi durant ce mois de juillet. Nous sommes ensemble, vous le savez, jusqu'au 26 juillet pour notre feuilleton du Tour de France qui nous régale depuis son départ samedi d'Utrecht aux Pays-Bas. Nous avons changé de pays aujourd'hui. Nous sommes passés en Belgique. Nous avons même changé de province depuis le départ ce matin. Nous étions en Flandre. Nous arriverons tout à l'heure en Wallonie pour l'arrivée de cette troisième étape entre Anvers et 859 km au programme. Le soleil est de retour aujourd'hui après quelques averses et un fort coup de tabac hier sur le Tour de France. Mais attention, le coup de tabac pourrait bien reprendre tout à l'heure, non pas au niveau météo, mais au niveau course avec cette ascension du terrible mur de Huy, là où tous les printemps s'achève la flèche wallonne. Évidemment, toute la Dream Team est à mes côtés pour vous narrer ce troisième épisode de la route du Tour, à commencer par le druide dans son art. Bonjour Cyril. Ça commence bien. Ça commence très bien.
Il est tombé, donc
tombé de l'arbre où il est allé cueillir un peu de gui, je ne sais où.
Ça y la note.
Oui, c'est pas facile tous les jours non plus. Frédéric Adam, notre devin, lui est bien là en place.
Hello. Salut, bonjour à tous.
Georges X, le petit Gaulois. Georgie, le petit guerrier, plus exactement. Georges Quirino, évidemment, sur la moto RMC, derrière Marc Banure, notre conducteur de char. Bonjour messieurs.
Bonjour au grand chef, bonjour à tous. Bienvenue sur les voies romanes du Tour de France.
Les voies romaines, exactement. Et puis notre bar de breton est à nos côtés. On l'a ligoté pendant un moment pour qu'il évite de chanter. Mais il est là, il va parler. C'est Pierre-Yves Leroux. Salut Pierre-X.
Bonjour une fois.
Bonjour. Ah oui, tu as un bar.
Ah bah faut s'adapter.
Très bien, messieurs, on est ravis de vous retrouver. Lucho devrait arriver. Pour l'instant, il est à l'heure du sandwich. Vous le savez, à 15h07, il a pris un peu de retard dans son sandwich. Et il va même nous démarrer la Lucho Mobile tout à l'heure. Enfin, ce sera plutôt la Lucho Immobile, car pour l'instant, il a des petits problèmes. Mais vous allez voir, il va nous trouver des bons petits produits locaux. Troisième étape, je vous le disais, donc de ce Tour de France. C'est parti donc depuis quoi maintenant? Depuis quasiment 2 heures de Anvers, en Belgique. Fred, on va faire le premier top course de ce troisième épisode du Tour de France.
Top course.
4 coureurs en tête dans cette troisième étape, scénario classique pour une étape de première semaine du Tour de France avec un coup qui part dès le premier kilomètre à l'initiative d'un coureur français. Comme hier, il y a un Europcar à l'avant, il s'appelle Brian Nolo, il a 27 ans et donc il fait partie des petits hommes verts de Jean-René Bernaudot. Il est accompagné d'un Suisse, Martin Helmiger, du Tchèque Jan Bartha, que l'on avait déjà vu échapper hier, et d'un Belge. Coureur local, régional même de l'étape, Serge Pauwels, qui porte le maillot de l'intrigante équipe africaine MTN Kubeka. Serge Pauwels qui est passé chez lui à Lierre à la sortie d'Anvers tout à l'heure dans l'échappée. Il a pas pris le temps de faire un petit coucou à la maison, mais après seulement 4 km, il était à domicile. Autant dire qu'il connaissait par cœur les routes du début de l'étape.
Ça se perd cette petite tradition d'ailleurs, Fred, de laisser le régional de l'étape prendre un petit peu de champ, aller dire bonjour à la famille, embrasser la fiancée, oui. Serrer quelques pognes et ensuite repartir, faire un petit pipi avant de repartir, faut pas oublier ça.
Oui, on en voit de moins en moins, c'est vrai. Là, c'était d'autant plus le cas que c'était en tout début d'étape. C'était la guerre pour prendre la première échappée. Il est hors de question dans ces circonstances de laisser un coureur prendre du champ, s'arrêter et repartir dans l'échappée. C'est vrai qu'on le voit de moins en moins, sans doute les impératifs du cyclisme moderne à grands coups d'oreillettes et de minutes publicitaires, minutes télévisées en tout cas. Pourvu qu'on retrouve ça au moins une fois cette année sur le Tour.
Alors nous on est ravis parce qu'on a retrouvé le druide. Vous avez vu, il parle quand on lui donne pas la parole et il ne parle pas quand on lui donne la parole. Il est là le druide, Cyril. Bonjour Cyril.
Oui, bonjour. Depuis quand on donne des ordres au druide?
Non, on ne donne pas. On lui soumet quelques petites questions de temps en temps. Ça va, tout se passe bien là-haut dans ton arbre? Pas trop chaud?
Non, ça va là. Aujourd'hui, ça va. Il y a un petit peu d'air. Et puis l'ambiance est bon enfant. Voilà. On suit l'évolution bien sûr de la course parce que que c'est peut-être pour ça que je et que nous sommes présents sur ce Tour de France.
Exactement.
C'est pour parler de la course.
Eh ben, on va en parler. On a un peu de temps devant nous pour parler de cette course. La carte postale avec la moto RMC. Donc Georges, notre petit guerrier qui va nous raconter ce qui se passe. Une petite carte postale, quelques images sonores. Il se passe des choses évidemment en Belgique, le pays du vélo, Georges.
Oui, effectivement, et il se passe des choses depuis ce matin parce qu'on est parti de la grande place magnifique d'Anvers où les coureurs sont venus se présenter à tous les spectateurs. Il y avait des milliers de spectateurs. On sait que les Belges et les Flamands sont fans de vélo, partis depuis la capitale du diamant Anvers. Et puis derrière, on a pris la route là sous le soleil avec ces magnifiques maisons en briques, si caractéristiques à la Belgique et aux Flandres. On est sous le soleil et on est passé par exemple dans le village de Mensil, Kiezegem, d'où est né un certain cannibale Eddy Merckx qui est sur la route aujourd'hui. Il y a des friteries, des drapeaux jaunes flanqués du lion des Flandres sur le bord des routes. On a bien changé de pays, on est bien en Belgique et non plus aux Pays-Bas aujourd'hui.
J'espère que tu n'as pas oublié la commande faite par Virginie Fulpin, hein, qui présente l'Intégral Tour à partir de 18h quand tu es passé en vert, Georges.
De
ramener quelques petites pierres.
Vous
voulez quelques petites pierres.
Oui,
des pierres d'Anvers. Oui. Non, tu n'as pas trouvé ça.
Oui,
tu vas te faire taper sur les doigts.
Une grosse pierre. Je vous parlais d'une grosse pierre que j'ai croisée tout à l'heure. On en reparlera.
D'accord.
Très 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 gros diamant.
Vous êtes contente, Virginie. Très bien. Dans un instant, on va essayer d'attribuer, de donner un nom à l'étape du jour, à l'épisode du jour. Mais avant ça, vous savez qu'il se passe des choses à Wimbledon avec le 8e de finale entre Gasquet et Kyrgios. On va retrouver Eric Salio. Salut Eric.
Salut Christophe.
Ça a été très chaud tout à l'heure avec des balles de match pour Richard Gasquet qu'il a laissé échapper. Et du coup, il était bien énervé, notre Richie National. Hein.
Ouais, c'est terrible ce qu'il vit parce que il y a forcément le fantôme du match de l'an passé qui a ressurgi lorsqu'il a perdu ce tabac du troisième après avoir eu deux balles de match, dont une sur son service, mais il faut reconnaître qu'il est allé au filet et il a pris un passing absolument extraordinaire de Nick Kyrgios qui derrière a sauvé la deuxième balle de match avec un coup droit gagnant. Donc on était à 2-7-1 Gasquet. 4 jeux à 3 dans le quatrième set pour le français, mais Kyrgios est au service. Money Time va pas tarder à revenir.
Bon appétit Eric, hein.
Merci.
Tu manges des fraises à la crème là. Hein. Hein,
c'est le souffle qui ment parce que j'ai monté les escaliers.
Oh là,
un
truc terrible pour un commentateur de tennis. Ils ont un escalier à monter par jour, ça c'est affreux.
C'est un peu le mur de vie, tu vois.
Très bien, très bien. Bon, reprends ton souffle, on revient vers toi tout au long de l'après-midi. Il y aura un autre match tout à l'heure, Eric, hein, avec Gilles Simon face à Berdy, je crois.
Ouais, c'est ça. Il y aura un match de filles sur le même court. Donc il y aura Wozniacki, la danoise, et ensuite Gilles Simon affrontera Thomas Berdy.
Fred Adam ne te croit pas du tout quand tu dis que c'est parce que
Eric,
tu es soufflé.
Eric, bon appétit quand même. Hein.
Oui, ça s'entendait quand même.
Quand même un peu.
Non, ah zut tout. Alors.
Allez, à tout à l'heure, Eric.
Ce ne sont pas des frites belges.
Ah, c'est pas des frites. Non. À Wimbledon, on mange plus chic si tu veux. On mange des fraises à la crème. Ça, j'adorerais que tu ramènes des fraises à la crème. On va en ramener à Virginie. Très bien. Le Tour de France est évidemment, vous le savez, un feuilleton tout au long de ce mois de juillet avec des épisodes. Hier, nous avons vécu un épisode agité. C'était le deuxième épisode du Tour de France. On y revient.
RMC, précédemment dans l'intégral Tour de France.
Beaucoup de dégâts avec des chutes, avec des bordures. Oui. Et il y a du beau monde qui a été impliqué dans les chutes. On pense notamment à Nasser Bouhanni, le coureur, le sprinter de la formation Cofidis.
Ah oui, impliqué dans la chute Nasser Bouhanni, mais aussi et surtout Thibaut Pinot, attardé. Il y en a partout, hein, à 47 km de l'arrivée. Thibaut Pinot n'est peut-être pas tombé, mais il n'est plus dans le groupe maillot jaune. Un groupe maillot jaune qui vient de se scinder deux parties.
On roule toujours sur une chaussée complètement détrempée, évidemment. Mais la pluie s'est arrêtée. Le vent est vraiment très faible là, hein, alors qu'on n'est pas loin de la mer.
C'est un coéquipier de Valverde, de Quintana, qui est allé au sol.
Oui, un coureur de l'équipe Movistar dans le groupe des battus. Un groupe qui évolue à 1 minute 10 du groupe de tête. Marc Cavendish qui part de très loin. Il est en tête avec André Greipel dans sa roue. André Greipel en plein centre de la route avec Peter Sagan qui vient aller essayer de sauter André Greipel sur la droite, mais André Greipel, l'ancien champion d'Allemagne, remporte ici à Zélande pour une demi-roue sa 7e victoire d'étape sur le Tour de France.
RMC Intégral Tour.
André Greipel, vainqueur de l'étape d'hier où il s'est passé beaucoup de choses, on va évidemment y revenir. Fabian Cancellara en jaune. Alors quel était pour vous le meilleur titre de l'épisode d'hier? On va commencer avec toi Fred. Voilà, qu'est-ce que c'était quoi le...
Quelles étaient les propositions?
Il y en a plus.
Moi, j'avais dit piège en haute mer, j'ai trouvé que c'était pas mal.
Piège en haute mer, je trouve que c'est le titre qui va le mieux.
Okay. Hein,
piège en haute mer, tu avais dit bien Pierre-Yves toi déjà?
C'était meilleur mais je m'en souviens plus.
Georges, tu te rappelles de ce que tu nous avais proposé?
Oui.
J'avais dit Cavendish contre vents et marées, je me suis complètement planté. Il a pris le vent et la marée dans le final.
Pierry, c'était pas le temps de souffler.
Ouais, pas le temps de souffler.
C'est bien aussi, pas le temps de souffler. Et puis le druide nous avait dit ils sont le grand spi. On a senti le grand
oui,
spi.
J'avais dit ils sont tous dans le même bateau, il est temps d'y le grand spi.
Ah oui, non, c'est un super rallonge.
On peut pas, ça en titre, c'est trop long.
Un feuillet entier si tu veux.
C'est pas grave, vous l'effacez.
Très bien. On l'efface. Aujourd'hui, donc, troisième étape entre Anvers et lui, on va tenter de trouver un nom à cet épisode et puis on verra celui qui est tombé le mieux. On vous attend sur le hashtag RMC Live, venez nous faire vos propositions, j'en ai déjà pas mal. Seb par exemple qui nous dit le mur, trois petits points, aïe, le mur aïe. Hein, c'est pas mal, le mur de Huy. Toi Toine qui nous dit le mur de Huy va nous faire voir l'envers, mais envers ALVRS du décor. Ou encore Patrick qui nous dit ils veulent décrocher la lune dans lui. La lune dans lui. J'ai pas bien compris le jeu de mots.
Moi non plus. Dans le magazine, lui.
Ah, d'accord.
La lune dans lui.
Ah, c'est pas mal. C'est pas mal trouvé. Alors, qui veut commencer Fred, tiens.
Des coups durs avant le mur.
Des coups durs avant le mur.
Parce que tout le monde attend que la bataille ait lieu dans le mur de Huy, mais le mur de Huy, ce n'est jamais qu'une montée finale très sèche, avec des passages, c'est vrai, redoutables. Près de 25% dans ce fameux virage, ce pif-paf gauche-droite à 450 mètres de la ligne. Mais avant, il y a trois côtes de quatrième catégorie et des routes étroites. On est en début de Tour de France et aucun favori ne souhaitera se faire piéger. Donc toutes les équipes souhaiteront placer leur leader à l'avant et ça risque de provoquer quelques chutes. Attention à ne pas aller tâter de bitume trop fort aujourd'hui.
Très bien, donc pour toi ça va se passer avant le mur de Huy, des coups durs avant le mur pour Fred. Pierre-Yves, notre barde.
Je donne un indice déjà sur mon pronostic, je pense que c'est Sagan qui va gagner et donc je dis Peter Plan.
Oh oui, là il faut qu'il gagne quoi.
Autrement, voilà, sinon c'est rien, encore perdu.
Encore perdu comme hier. Georges.
Oui, ben moi je vais faire comme Pierre-Yves, c'est-à-dire que je vais donner mon pronostic dans le titre. Je vais dire Purito fait le mur. Purito fait le mur.
Purito fait le mur.
Joaquim Rodriguez.
On a appris que Purito se ressentait quand même de sa chute d'hier. Donc tu risques de passer à côté. Bon, on verra tout à l'heure. Hein.
Ouais, mais je l'ai vu ce matin tourner en rond là au départ. J'ai l'impression. Ouais, je l'ai pas senti tellement affaibli. Tu vois, on verra tout à l'heure.
Joaquim Rodriguez, vainqueur ici même sur la flèche wallonne en haut du mur de Huy, il y a 3 ans de cela.
Très bien. Le druide, Cyril Guimard, a-t-il un titre à nous donner? Non pas un papier entier, mais un petit titre, tu vois, genre 10 mots, quoi.
Mais je vais faire court, mais vous savez, lorsqu'on était à l'armée et qu'on disait faire le mur, ça voulait dire qu'on se cassait, quoi. Donc peut-être que Rodriguez va se casser ou s'évader. Non, moi je vais dire le mur du son.
Le mur du son.
Oui, parce que dans cette montée, la ferveur du public sera telle que nous n'entendrons rien, enfin les coureurs n'entendront rien que le cri des spectateurs. Donc c'est pour ça que je l'ai intitulé le mur du son.
Voilà. Allez, ma proposition, je peux en faire une.
Sans prix.
Un faux col au pays de la bière.
Un faux col.
Non, c'est presque un livre.
Hein. Okay. c'est pas un livre, dis donc. Voilà pour nos propositions. Tiens, Florian nous en fait une également. Le Tour de France prend le mur de Huy en pleine face. Et puis, est-ce qu'il y en a d'autres? Thierry nous dit Tour au-delà du mur. Ou encore Cheka nous dit Montagne russe, le Grand Huy. Voilà donc pour les propositions. Nous verrons tout à l'heure celui qui est le mieux tombé. Et puis, vous votez. Hein. Vous pouvez voter. Vous pouvez nous donner votre meilleure proposition. Voilà donc pour les titres du jour. On va refaire un petit point sur la course, Fred. Et puis, on va accueillir nos auditeurs qui ont des choses à nous dire évidemment au 32-16 sur le hashtag RMC Live et puis la musette et puis plein d'autres choses, la Ucho Mobile, la recette du druide, il va s'en passer évidemment, mais il y a d'abord la course puisque nous sommes à 85 km de l'arrivée. Fred, le top course.
RMC Top Course.
à la frontière entre la province de Liège et la province de Namur. Quatre coureurs à l'avant de cette troisième étape avec 3 minutes d'avance sur le peloton. Les quatre coureurs, Brian Nolo, le français, de l'équipe Europcar, Martin Helmiger, un Suisse, Yann Barta, le Tchèque, échappé pour la deuxième journée consécutive, et puis un produit local, Serge Powells, originaire d'Anvers et qui porte les couleurs de l'équipe américaine, de l'équipe africaine MTN Kubeka, un quatuor de tête qui, à 85 km de l'arrivée, compte toujours 3 minutes d'avance sur un peloton qui musarde, à l'avant duquel on trouve évidemment les maillots blancs et noirs de l'équipe Trek, les maillots jaunes d'un Fabian Cancellara qui pourrait avoir quelques soucis à garder sa précieuse tunique en haut du mur de Huy.
Va-t-il passer le cap des 30 jours en jaune, puisqu'il en est à 29 pour l'instant. Allez, retour à Wimbledon. Richard Gasquet est en bonne position une nouvelle fois. Eric Salio
est à 2 points du match, Richard Gasquet, dans ce 8e de finale face à Nick Kyrgios, 2-7-1 pour le français, 5-4 dans ce 4e set. C'est Nick Kyrgios qui est au service et il y a 30 ans, il y avait 15-30, mais le passing de Richard s'est arrêté vraiment dans la bande du filet. Ça manque de réussite, mais peut-être que cette fameuse réussite va tourner. Non, service gagnant 40-30, donc balle pour faire 5 jeux partout dans ce 4e set. J'ai l'impression que cette fin de manche va être aussi irrespirable que le tie-break du 3e qui a été remporté par Nick Kyrgios. Et on rappelle que l'Australien s'est sauvé, il a fait le mur aussi en sauvant 2 balles de match.
Ok, on revient vers toi rapidement Eric, évidemment dès qu'il se passe quelque chose dans ce match 8e de finale entre Gasquet et Kyrgios. 15h21, vous êtes sur RMC, c'est l'Intégral Tour, on est ensemble tout au long de l'après-midi jusqu'à 21h évidemment. Le 3e épisode aujourd'hui de ce Tour de France entre Anvers et Huy. À tout de suite.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Ça continue aujourd'hui, 3e épisode, 3e étape de ce Tour de France. Donc nous sommes en Belgique entre Anvers et 859 km au programme. C'est une étape courte, mais une étape qui devrait être nerveuse en tous les cas dans son final. On vous a parlé du mur de Huy, il y aura pas mal de petites côtes à franchir auparavant. Tiens, Stéphane est au 32-16. Stéphane qui voulait nous donner lui aussi un nom pour l'épisode du jour. Salut Stéphane.
Bonjour, ça fait plaisir de retrouver toute l'équipe au grand complet.
Et bah puis... oui. On est ravis de vous avoir aussi, hein, que quelques auditeurs nous écoutent quand même.
Ah oh, ben pas que quelques-uns, hein, beaucoup plus. Et j'ai voulu vous appeler dès le départ du tour, mais j'étais dans les Alpes pour préparer l'étape du tour.
D'accord.
Je me suis inscrit cette année, donc je voulais vous appeler, voilà, je l'ai fait qu'aujourd'hui.
Très bien, ça s'est bien passé la reconnaissance de l'étape du tour. Ce sera entre où et où déjà? Ce sera.
Alors on part de Saint-Jean-de-Maurienne et on arrive à La Toussuire.
D'accord, ouais.
Il y a juste 61 km de montée.
Oui, c'est rien. C'est un petit c'est pas grand chose. On a des journalistes de la rédaction d'RMC Sport qui participera aussi. Benoît Boutron qui est en train de se préparer lui aussi.
Alors, bon courage à lui.
Ouais, vous allez peut-être vous croiser. Alors Stéphane, ton titre pour l'épisode du jour, t'as quelque chose à nous proposer?
Voilà, moi je suis resté très classique, sachant que vous m'avez piqué une idée. Au départ, j'avais pensé à faire le mur, voilà, s'évader ou quoi que ce soit. Donc moi je serai juste à l'épreuve du mur, sachant que je pense que c'est une étape où il n'y aura pas de gros écarts entre les gros favoris. Mais quand même, ça permettra peut-être de tirer déjà quelques enseignements sur celui qui a la soquette légère ou pas.
Exactement, c'est une bonne proposition. À l'épreuve du mur, la soquette légère, ça c'est une belle expression de coureur cycliste. Cyril, explique-nous la soquette légère pour les auditeurs qui ne connaissent pas le jargon cycliste.
Eh bien, la soquette légère, ça veut dire que on se balade, on conduit le vélo, on est facile, voilà. C'était vrai pour 24 coureurs hier, ça ne l'était pas pour tous ceux qui se sont retrouvés à l'arrière. Mais j'ai trouvé un nouveau titre fait pour le mur.
Ah ça y est.
Oui. Pour un certain nombre de coureurs, ça sera le mur des lamentations.
Le mur des lamentations, ouais. Je préfère ça à ton autre. Ah, le mur du son, c'était pas mal aussi tout à l'heure. On peut jouer sur le mur. Très bien, merci Stéphane. Bonne préparation de l'étape du tour. N'hésite pas à nous rappeler ce jour-là pour nous dire dans quel état tu as terminé cette étape du tour qui sera particulièrement difficile. Eric Salio à Wimbledon, où en est-on? On est surtout Richard Gasquet.
Il met deux manches à une, mais je pense qu'on va aller au tie-break, Christophe, tie-break du quatrième, 6-5 Gasquet, mais 40-15 sur la mise en jeu de Nick Kyrgios. Donc je pense que dans 5-6 minutes, on pourrait avoir, on l'espère, de nouvelles balles de match pour le Biterrois.
Ok, eh bien on revient vers toi, tu n'hésites pas à nous couper, à nous appeler pour nous donner des bonnes nouvelles, on l'espère évidemment, de Richard Gasquet. 80 km de l'arrivée, un nouveau petit top course avec Fred.
RMC Top Course.
avec 4 coureurs échappés depuis le premier kilomètre sur cette étape ensoleillée en direction de Huy, le sommet du mur de Huy, traditionnel lieu d'arrivée de la Flèche Wallonne qui sacrera tout à l'heure le vainqueur de cette troisième étape. 80 km à parcourir et toujours 4 hommes en tête. Brian Nolo, le coureur vendéen de l'équipe Europcar, Martin Helmiger, le Suisse, Yann Barta, le Tchèque, et puis un local régional de l'étape aujourd'hui, le Belge Serge Powels. Écart stabilisé aux alentours de 3 minutes, un peloton contrôlé par les Trek de Cancellara, les Tinkoff Saxo de Contador, les Astana de Nibali, les Lampre de Rui Costa, les Sky de Christopher Froome. Vous le voyez, on ne musarde pas dans le peloton, en tous les cas on reste vigilant, pas question d'égarer ses leaders aujourd'hui, en particulier dans l'approche du mur de Huy dans le final de l'étape.
Voilà, pour l'instant tout est tranquille. On va voir avec Cyril dans quelques instants s'il pense que ça va durer comme ça très longtemps. Cyril, tu es avec nous, le druide?
Oui, je suis toujours avec vous.
Cyril, à ton avis, ça va se décanter quand cette histoire? À partir de quel moment ça va commencer à accélérer? Parce que là, autrement, on fait la sieste. Hein.
Écoutez, vous pouvez faire la sieste jusqu'au pied de la côte de Boisseau, qui se trouve au kilomètre 109. Car les choses sérieuses vont commencer à ce moment-là. Je pense que l'échappée aura toujours un avantage sur le peloton. Mais la course prenant un autre visage pour ces 4 dernières ascensions, l'écart baissera très rapidement et on aura une explication entre les costauds dans le mur de Huy.
Ok, oui Fred.
À noter que c'est aujourd'hui que commencera la lutte pour le très coté maillot à poids, puisque c'est rarissime. On a pris ce départ le matin de la troisième étape sans maillot de meilleur grimpeur, et pour cause, à Utrecht, dans ce circuit urbain et tout plat évidemment que l'on a attribué aucun point, et puis hier entre Utrecht et Zeeland au bord de la mer du Nord, le point culminant de l'étape était aux alentours de 10 mètres à Rotterdam, c'était sur un pont. Donc évidemment aucun point distribué pour ce Grand Prix de la Montagne. C'est aujourd'hui que cela commence, et comme l'a dit Cyril, il y a 4 côtes, 3 de 4e catégorie précédant ce fameux mur de Huy, très court mais classé en 3e catégorie parce que très raide.
Alors que c'est un maillot qui fête son anniversaire, le maillot à poids.
Quel âge?
40 ans,
d'accord.
Presque comme toi Fred. D'ailleurs, non, c'est pas aujourd'hui ton anniversaire?
Aujourd'hui c'est l'anniversaire d'Annie Bazar, notre concert de BFM.
On lui fait un gros bisou Annie, on en profite évidemment, toutes les occasions sont bonnes.
Et on n'oublie pas, il ne faut pas qu'elle nous oublie d'ailleurs.
Pourquoi?
Pour la bonne occasion.
Ouais. Ok, oui. Allez, 15h30, messieurs, dames, vous qui nous écoutez, vous allez découvrir notre nouvelle rubrique, la musette. Et oui, nos reporters ont tous ramené quelques petits quelque chose dans leur jolie musette.
RMC Intégral Tour, la musette.
Voilà, l'objectif c'est évidemment de ramener les infos. Vous êtes journaliste, messieurs, vous n'êtes pas, en tous les cas, je pense que vous êtes pas mal en tant que journaliste, ou même comme consultant, comme druide, vous avez peut-être des choses à nous ramener. On va commencer par Georges, il m'a teasé avec son gros caillou tout à l'heure. Je pense qu'il voulait le mettre dans sa musette. Georges, sur la moto RMC, de quoi veux-tu nous parler?
Ah, dans ma musette, ce gros caillou ne rentrait pas dans ma musette, hein, je pense. Je veux parler du trophée tout en diamant qui a été offert à Fabian Cancellara, le maillot jaune au départ. Vous savez que je vous l'ai dit tout à l'heure, Anvers, c'est la capitale du diamant, et on lui a donné un trophée tout en diamant d'une valeur de 25 000 euros.
Ah ouais,
à Fabian Cancellara. Alors, il n'est pas parti avec sur l'étape, hein, a priori, mais en tous les cas, c'est un beau trophée pour le Suisse qui, en plus de cela, est ici une véritable star en Belgique. Vous savez que les Flamands l'aiment beaucoup. Il y a même un fan club du côté d'Audenard où se situe l'arrivée du Tour des Flandres qu'il a remporté 3 fois. Il y a même une bière à son nom qui est brassée à Fabian Cancellara dans le coin ici dans les Flandres. Donc voilà, Cancellara qui peut célébrer tranquillement son arrivée dans les Flandres.
C'est Tony Martin qui doit être content, hein. Tony Martin.
Il a laissé Tony un Martin. Maillot jaune et les 25 000 euros du diamant sous le nez.
Exactement. Hier, on
rappelle. Grâce à son coéquipier, on rappelle
que Fabian Cancellara a endossé le maillot jaune hier soir à Zeeland au bout de ce long pont de 2 km 500 parce que Cancellara a pris les 4 secondes de bonification qui vont avec la 3e place de l'étape, et Cavendish s'est relevé le sprinter de l'équipe Etix Quick Step, lui, pour lequel Tony Martin, l'Allemand, avait roulé toute la journée.
Oh, c'est terrible.
Il y a du barbecue qui est en train de fumer.
Non, c'est Lucho.
On a vu Tony Martin en pleurs ce matin. En pleurs.
C'est vrai.
Au pied du bus.
À cause du caillou.
Ah oui, il s'en remettait pas. Il y avait une biche qui essayait de venir et il donnait des bagues avec un gros caillou, mais il n'a pas voulu.
Non, mais c'est surtout sa femme qui doit être déçue, Georges, puisque Fabien Cancellara a annoncé qu'il allait offrir le diamant à sa femme.
Ah, je pensais que c'était pour Virginie Fulpin. Ça lui passe sous le nez. Elle avait qu'à venir sur le Tour de France. Très bien, voilà donc la musette de Georges X.
J'ai cru que la grosse pierre allait être un menhir de Marco, mais pas encore.
Retour sur la route du Tour, ici, troisième étape de ce Tour entre Anvers et Huy. Nous sommes à un peu moins de 74 km de l'arrivée. On va faire un nouveau top course et ensuite on va reprendre la musette.
RMC Top Course.
Avec un écart qui fond très rapidement, l'écart en faveur des quatre hommes de tête. Brian Nolo, le français de l'équipe Europcar, Martin Helmiger, le suisse, Jan Bartha, le tchèque, et un local régional de l'étape, Serge Powels. Ces quatre-là à 73 km de l'arrivée, c'est-à-dire à 25 km de la première difficulté du jour, la côte de Bohisseau. On entrera sur le final du parcours de la Flèche Wallonne. Écart aux alentours de 2 minutes maintenant. Le peloton est dans la zone de ravitaillement liquide et solide, car il reste beaucoup de pain sur la planche en ce final de troisième étape.
Ok, nous sommes donc toujours ici en direct de Huy. Pour l'instant il fait un temps magnifique sur la Belgique et la température est tout de même beaucoup plus supportable que le premier jour à Utrecht lors de la première étape. Nous continuons donc notre petite musette. Nos reporters ont ramené des informations insolites ou des informations de la course. On va donner la parole à Pierre-Yves Leroux, notre bar de Breton. Qu'est-ce que tu as dans ta petite musette aujourd'hui?
Est-ce que tu sais qui est dans la voiture du quintuple vainqueur du Tour de France, comme on l'annonce tous les jours? Voilà, c'est ça. Le blaireau est avec le cannibal.
Oh là là.
Qu'est-ce qu'ils peuvent bien se raconter, puisque on est passé.
De Thierry Guimard, peut-être.
Peut-être, pourquoi pas. Non, apparemment, ce matin, Eddy Merckx n'avait pas forcément envie de parler de vélo avec Bernard Hinault. Ils avaient plein d'autres choses à se raconter. Donc, l'étape du jour est passée tout à l'heure par Minsel Kizegem, le village natal d'Eddy Merckx. Et forcément, Eddy était heureux de retrouver ce village où il a grandi et où il a passé de nombreuses vacances. On l'a rencontré ce matin au village départ.
On l'écoute.
C'est pour moi le plus beau souvenir de ma carrière. Donc chaque fois, c'est un grand plaisir que je viens sur le Tour. Je suis avec Bernard Hinault dans la voiture. Oui. On s'arrêtera à Minsel-Kizegem, où je suis né. On va passer dans mon village natal. Bon, il faut dire que j'ai pas vécu longtemps dans mon village natal, mais enfin, j'ai passé beaucoup de vacances là-bas, j'ai beaucoup de bons souvenirs. À Minsel-Kizegem, j'avais la famille de mon père et de ma mère, ils habitaient là.
Voilà, Eddy Merckx forcément, qui passe tous les ans un peu sur le Tour de France, mais surtout, on sent un fort caractère quand on peut interviewer Eddy Merckx, qui rappelle un peu celui de Bernard Hinault. On sent le caractère du champion, hein, qui est quand même
marqué. Impressionnant.
Assez délicat à approcher. Quoi.
Il est intimidant, Eddy Merckx.
Alors, il y en a un qui connaît évidemment fort bien les deux, c'est notre druide, Cyril Guimard. Il a été le directeur sportif de Bernard Hinault et il a été l'un des adversaires principaux d'Eddy Merckx. Quel est le gros caractère des deux, Cyril?
Quel est le plus beau ou
le plus gros caractère?
Ah, le plus gros,
oui.
Mais je sais pas ce que ça veut dire, gros caractère.
Impressionnant, quel est le plus impressionnant des deux hommes quand on discute avec eux, lorsqu'on se dispute avec eux? Tu t'es disputé avec les deux aussi, hein?
Oui, mais c'est normal, je dois faire partie des gros caractères aussi.
C'est vrai.
Oui, mais pour des raisons éventuellement, enfin, vraisemblablement différentes, il est difficile de comparer un coureur que vous avez dirigé pendant pratiquement 9 ans et puis un coureur avec lequel vous avez partagé d'abord une partie de votre carrière et ensuite en tant que coureur et ensuite en tant que directeur sportif. La grosse différence entre les deux, c'était le comportement sur le vélo. Merckx était extrêmement introverti, peu causant, y compris dans les périodes de course où il ne se passait rien, renfermé sur lui-même, mais également son équipe renfermée, mais on est toujours à l'image de son leader, alors que Bernard Hinault était beaucoup plus jovial, pouvant à certains moments être complètement déconnecté de la course, même pendant la course. Mais après, il avait une capacité à se reconcentrer sur sur les points stratégiques. Donc deux personnalités totalement différentes sur ce plan-là. Et puis j'ai presque envie de dire Bernard Hinault qui cherchait aussi un petit peu à forger son image sans se forcer, mais qui avait besoin d'être aimé, alors que Merckx ne recherchait pas obligatoirement la popularité.
Alors on sait que vous avez eu des mots avec Eddy Merckx. C'était quoi, il y a 2 ans, hein?
Non, il y a 3 ans.
Il y a 2-3 oui. ans, il t'avait traité de comment?
Au moment de la sortie de ton livre, Cyril, c'est ça?
Oui.
Tu l'avais un petit peu esquinté, quoi.
Oui, tu l'avais. Tu l'avais.
Tu l'avais cherché.
Un petit peu, ouais.
Non,
et t'avais pris dans le museau quand même, hein, derrière. Hein.
Non. Attendez, vous racontez n'importe quoi, vous essayez de m'allumer. Vous êtes en train d'essayer
c'est
de
pas
me
du genre.
Non, pas du tout. Mais non, pas du tout. Non, non.
Le petit Napoléon, c'est ça, ou le petit
Rat
du peloton? Le petit Rat du peloton. Oui. Oh, c'est pas gentil ça quand même. Hein.
Oui, non, mais le problème justement, c'est qu'Aino peut accepter éventuellement qu'on lui dise des choses qu'il a peut-être pas envie d'entendre. Merckx, non, vous savez, il fait presque partie de la famille royale, donc il ne faut pas y toucher. Non, j'avais tout simplement dit que Eddy Merckx n'était pas populaire et je m'étais servi pour cela des surnoms. Et je disais, on ne peut pas être populaire quand on s'appelle le cannibale. On peut l'être quand on s'appelle le blaireau parce que c'est un animal qui a une certaine image, etc. Bon. Mais quand on s'appelle le cannibale, on ne peut pas être populaire. Cannibale, ça a quand même une connotation très, très négative. Et donc voilà, partant de là, j'avais donc évoqué ce personnage qui ne recherchait pas, je viens de le dire d'ailleurs, obligatoirement la popularité, ou qui ne savait pas, ou qui était trop timide peut-être pour le faire. Mais surtout, à aucun moment il savait se rendre sympathique et éventuellement, même dans les critériums, laisser peut-être un peu la porte ouverte, ou dans certaines courses en Belgique, laisser la porte ouverte. Donc il voulait tout à lui tout seul, de là d'ailleurs son surnom. Et donc je disais que s'il était un grand champion en Belgique, pas seulement en Belgique, mais s'il était très populaire en Belgique, auprès des Français, c'était le cannibale et c'était pas quelqu'un qui était très populaire.
Ouais, les Français n'aiment pas.
Et donc
pas...
il n'avait pas aimé.
Bon, non, bah, non, il n'avait pas aimé. Mais vous avez pu en discuter depuis, ça va mieux tous les deux, ou c'est...
Bah, il n'a jamais trop parlé, Eddy Merckx. Hein, donc moi je parle beaucoup, mais lui pas.
Très bien, donc on le voit, les relations sont toujours tendues. En,
mais non, en, mais ça n'a aucune importance. Vous savez, dans quelques années, on sera tous au cimetière. Et alors, quelle importance ça aura.
Le plus tard possible. Mon cher Druid, on a besoin de toi sur la route du Tour. La musette.
Personne n'est irremplaçable.
La musette, on continue notre petite musette. On va remettre la petite musique, la musette là. Non, la petite musique. La petite musette.
Que je chante.
Oui, chante un peu le barde. Fred, dans ta musette.
Alors, la musette du jour, elle n'est pas liée directement à la course, en tout cas. Au départ, pour cause, nous avec Christophe et Cyril rallions le plus rapidement possible la ligne d'arrivée pour être au courant de tout ce qui se passe depuis la ligne. La petite musette aujourd'hui sera sur l'un des échappés du jour, Serge Pauwels, le Belge local de l'étape qui est passé devant chez lui tout à l'heure.
A-t-il un rapport avec Stéphane Pauwels qui est membre éminent de l'After?
Je ne crois pas. Non, Serge est Belge.
Stéphane aussi.
Ah oui, pour de bon.
Pour de bon, oui.
Je crois pas. Il y en a beaucoup des Pauwels en Belgique. En tout cas, ce Serge Pauwels là, ancien coureur de l'équipe Sky, de l'équipe Quickstep, il était encore chez Quickstep l'an passé, a donc basculé cet hiver chez les Africains de l'équipe MTN Kubeka, première équipe africaine à participer au Tour de France. Il y a 5 Africains dans l'effectif de cette équipe MTN, et puis des pièces rapportées comme Edvald Boasson-Hagen, Tyler Farrar, le sprinter américain, ou Serge Pauwels, donc qui est en train d'effectuer un long raid à l'avant de la course avec seulement 30 secondes d'avance maintenant. C'est bien qu'on en parle maintenant. Serge Pauwels, que j'ai rencontré cet hiver en Afrique du Sud à la présentation de cette équipe MTN Kubeka, et qui m'a vu arriver, qui m'a demandé si j'étais bien le Fred Adam de RMC. Et je lui dis, comment est-ce que tu connais le Fred Adam de RMC, toi belge qui a couru exclusivement dans des équipes étrangères et qui aujourd'hui te retrouve en Afrique du Sud en stage. Bah simplement parce que ce coureur n'a pas le profil idéal pour participer au Tour de France. Il l'a déjà couru par le passé, une fois me semble-t-il, mais il avait l'habitude de faire des stages d'entraînement pendant le mois de juillet, et ces stages d'entraînement se déroulaient pour la plupart à Font-Romeu dans les Pyrénées, c'est-à-dire qu'il traversait la France en voiture et parfois, souvent même, il mettait la radio pendant l'entraînement et il écoutait RMC. Dommage pour lui cette année, il ne pourra pas nous écouter.
Il a des oreillettes, il peut peut-être t'écouter, il peut peut-être écouter les conseils du druide, puisque la recette du druide, ça va être dans quelques minutes, dans l'intégral tour. Allez, on se quitte quelques instants, nous sommes à 67 km de l'arrivée, toujours un tout petit peu d'avance pour nos hommes de tête, mais il n'y a plus grand-chose, 26 secondes, la grande bagarre, ce sera pour la fin de l'étape, et évidemment, on sera là pour tout vous raconter. À tout de suite, l'intégral tour revient dans une minute. Voilà, Fred, on va en profiter pour faire un nouveau point sur la course, puisque nous sommes quoi, 67 km de l'arrivée,
hein. Oui.
On se rapproche tout doucement.
67 km de l'arrivée, ça veut dire que dans quelques 15 km, on sera au pied de la première difficulté de la journée, la côte de Bohisseau, classée en quatrième catégorie, première des quatre côtes répertoriées sur le parcours de cette troisième étape. Ils sont toujours quatre, mais pour combien de temps encore? Quatre à l'avant de la course, le français Brian Nolo de l'équipe Europe Car, le suisse Martin Helmiger, le tchèque Yann Barta et donc ce belge Serge Powells dont on vous parlait à l'instant. Dernier pointage, ça revient très fort, 27 secondes d'avance pour ce quatuor sur un peloton qui pourtant roule toujours groupé. Il semble qu'on imprime un rythme mesuré mais significatif pour ne pas perdre de place à l'avant de la course. On voit de la gauche à la droite de la route les Saxo Tinkoff de Contador, les Movistar de Quintana et Valverde, les Astana de Nibali et sur la droite les Sky de Christopher Froome. Vous le voyez, on place ses leaders.
Très bien, on vous attend évidemment sur le hashtag RMC Live. Il y a aussi les messages que vous pouvez nous envoyer. Tiens, Kevin Pointou nous écrit bonjour les amis, je suis en Nouvelle-Zélande. Il est actuellement, alors là, c'était il y a un moment, il était 1h20 du matin, donc c'était il y a une petite vingtaine de minutes, et j'écoute l'intégral tour sur RMC. Il faut aller se coucher un moment, Kevin, quand même. C'est un vrai bonheur de pouvoir suivre aux côtés cette course tous les jours. Sans doute l'événement sportif le plus jouissif à écouter de l'année grâce à vous. Un grand merci à tous, Kevin, en direct de Wellington. Ça fait plaisir quand même. On t'embrasse, Kevin, mais il faut aller se coucher maintenant. Hein. Il y aura le podcast hein, pour ceux qui ont raté l'étape. Et puis, évidemment, sur le hashtag RMC Live, on a d'autres propositions pour l'étape du jour qui nous arrivent les unes après les autres. On va vous les donner dans quelques instants. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour les 65 derniers kilomètres de cette troisième étape du Tour de France.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Le troisième épisode de cette grande boucle 2015, troisième étape, c'est comme vous voulez, vous l'appelez épisode ou étape, nous on préfère l'appeler épisode, troisième épisode, donc entre Anvers et Huy, nous sommes en Belgique aujourd'hui, entre Flandre et Wallonie, pour cette étape qui s'achèvera tout à l'heure au mur de Huy, redoutable mur, c'est pas un col des Alpes, Fred, mais quand même, c'est du costaud, on en reparlera dans quelques instants. Que va-t-on faire? Oui, bah oui, on va accueillir Dédé, c'est l'heure de Dédé, on se demande où il est. Il est là avec nous, Dédé, de l'Assemblée des départements de France. Il est encore au chômage, ça fait 4 jours que ça a commencé. Il a rien à faire parce qu'on n'est pas en France. Donc là, il est là juste pour montrer sa belle voiture jaune, son gros Léon, qui balaye quand même un peu. Ça va, Dédé? Tout se passe bien?
Oui, bonjour à tous. Oui, ça va bien, ça va bien. Mais je ne fais pas que musarder, hein. On a quand même un peu de boulot, même si il est plus léger qu'en France. Surtout sur une étape comme celle d'aujourd'hui, on a quand même quelques petits balayages. Et surtout, si vous avez vu le long de la route, il y a ces bottes de paille placées par nos amis belges, mais qui connaissent la paille, mais qui ne connaissent pas l'emballage qui va autour. Et c'est dommage parce que là encore, ça va aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de vent et il ne pleut pas, heureusement. Parce que les ballots de paille qui sont trempés, mouillés ou avec du vent, c'est autant de morceaux de fétu de paille sur la route. Et autant de risques de chute, et les chutes, on en a soupé hier, donc heureusement il fait beau, mais on a quand même un peu vérifié tout ça, passé quelques coups de balai. Roléon a posé aussi le balai à droite à gauche, mais pas grand chose. Sinon ces petites côtelettes dans lesquelles je suis, puisque je viens de passer la première, la côte de Bohisseau, qui est quand même étroite, c'est très étroit, il y a du monde. Et le revêtement, c'est une voie communale, le revêtement est dans un état, pas exceptionnel, dirons-nous, pour travailler dans la vitesse.
D'accord, pas exceptionnel. Un petit mot sur le final, Dédé, avec cette ascension du mur de 8, c'est très raide. Est-ce que le revêtement est bon là-dedans? Parce que c'est important, évidemment, même si on sait que la Flèche Wallonne passe sur ses routes tous les ans. Hein.
Le revêtement, on va dire, est acceptable. C'est là aussi une voie communale pour avoir ce type de pente et ce type de tracé. C'est pas sur la route nationale qu'on va le trouver. Donc ce sont des petits chemins, des voies communales. Et donc on n'est pas sur des routes en excellente qualité. Mais l'avantage, évidemment, c'est qu'on est dans une montée finale et c'est moins grave d'avoir un revêtement bossé, d'abord parce que les coureurs vont moins vite et parce que on a dans ce cas-là moins de risques de gravillonnage, de risques de reçuage. Là, on aura pas tout ça. Ça devrait se passer très bien, d'autant plus que, tu le rappelais, on est quand même sur des routes qui sont déjà utilisées et déjà connues des coureurs spécialistes et classiques.
Dédé, un dernier mot concernant l'étape de demain, puisqu'on arrive en France et on arrive sur de drôles de routes. Ce sont les pavés du Nord, les pavés utilisés sur Paris-Roubaix. Là, ça doit être un drôle de travail quand même pour tes équipes. Là, est-ce qu'on balaye les pavés? Parce que ça fait partie aussi de la difficulté de la course, hein, la poussière et les gravillons qu'il y a sur les pavés de Paris-Roubaix et du Tour de France.
Là aussi, on passe d'une classique à l'autre. Là, cette fois-ci, ça va être les pavés qui ont quand même cette spécificité d'être classés. On doit les traiter avec respect et humilité, et donc ne pas les balayer, je dirais, comme des bourrins, mais il faut les balayer avec soin. Donc, ils sont préparés par les équipes du département qui vont les vérifier, qui vont éventuellement les retaper. Certaines sections sont régulièrement refaites par des associations de préservation et de sauvegarde du patrimoine local, et donc ces tronçons-là sont surveillés. Évidemment, comme ils sont utilisés le reste de l'année par des agriculteurs qui passent leurs engins dessus, le risque, c'est d'avoir évidemment de la poussière quand il fait beau, ce qui pourrait être le cas. Donc le balayage ne s'impose pas, c'est une surveillance et éventuellement un coup de balai manuel qui est passé et pour retirer des plaques de boue ou de terre qui se seraient collées sur certains endroits et sur certains tronçons. Et nous, demain, par exemple, avec la balayeuse, Gros Léon restera au placard demain, prendra les dérivations et il ne passera pas dessus. Bon, pas qu'il puisse pas le faire, mais tout simplement parce que le balayage serait plutôt inopportun.
Très bien, merci pour ces précieux renseignements, monsieur Dédé et son Gros Léon qui nous balaye les voies romaines et les voies gauloises. Merci André, à demain pour d'autres informations évidemment sur les routes de France, puisque demain il va enfin bosser cette feignasse. Allez, il est 15h55, on va se quitter, on va laisser passer les infos de 16h et revenir aussi vite que possible évidemment sur la route du Tour avec d'autres rubriques. La Lucho mobile, elle est immobile, mais il a trouvé Lucho, il a enfin trouvé des petits plats à déguster, ça faisait 3 jours qu'il attendait. Et bien cette fois-ci c'est fait. La Lucho mobile, ce sera juste après les infos de 16h. A tout à l'heure.
RMC Intégral Tour.